RTS Première, 22h.
Virginie Langerotte. L'heure avec RTS Première.
Les Lions de Genève sont champions de Suisse de basketball. Ils ont validé leur titre en battant tout à l'heure Fribourg Olympique 80 à 74. Ça se passait au Grand Saconnet. Jérôme Jeannin, ce titre représente un exploit pour le club genevois.
Oui, c'est un immense exploit pour les Lions de Genève parce que Fribourg Olympique régnait sur le basketball helvétique depuis une dizaine d'années, 6 titres consécutifs. Mais Genève a créé la surprise en remportant cette finale 3-1. Ce soir encore, Genève a fait preuve de caractère parce que Genève a vite été menée par Fribourg Olympique qui a pris 10 points d'avance. Mais Genève, à force de courage, a fini par recoller à la fin du troisième carton avant de faire la différence. Genève irrésistible dans le dernier carton. Genève qui s'impose finalement et qui décroche un nouveau titre de champion de Suisse 10 ans après le dernier. C'était en 2015.
Jérôme Jeannin, merci. Donc les Lions de Genève, champions de Suisse de basket. Au-dessus du village de Blatten en Valais, un effondrement de grande ampleur s'est produit ce soir au niveau du glacier du Birch. Une grosse avalanche s'est produite la nuit dernière, mais elle n'a pas atteint le fond de la vallée. Et ce soir, un autre grand torrent formé de glace, de roches, de neige et d'eau s'est détaché selon l'état-major de conduite du Lochental. Il s'agit du plus important effondrement sur le glacier depuis que le village a été évacué il y a 8 jours. Les débris n'ont pas atteint le village de Blatten, mais ont glissé jusqu'à un barrage. En France, les députés ont approuvé en première lecture la création d'un droit à l'aide à mourir, autre nom du suicide assisté. C'est la première étape d'une réforme majeure voulue par Emmanuel Macron. 305 députés contre 199 ont approuvé la réforme. Elle avait été mise en chantier en 2022 par le président français. La ministre de la Santé, Catherine Vautrin, espère qu'elle pourra être entérinée avant la présidentielle de 2027. Ce droit à l'aide à mourir sera ouvert aux personnes atteintes d'une affection grave et incurable et présentant une souffrance physique ou psychologique constante, des malades pour lesquels les soins palliatifs ne répondent plus à leur souffrance. En France, ce sujet délicat est régulièrement revenu dans le débat public à la faveur de cas particuliers qui ont suscité une forte émotion et divisé jusque dans le corps médical. Si le texte est définitivement adopté, la France deviendrait le 8e pays européen à légaliser l'aide à mourir. 4 policiers sont prévenus d'homicide par négligence après le décès dimanche d'un homme d'origine africaine. Ça se passait à l'hôtel de police de Saint-Martin à Lausanne. Il avait été interpellé en raison de soupçons d'activité liés aux stupéfiants. Une instruction qui intervient dans une période tendue. En fin de journée, une centaine de manifestants se sont d'ailleurs rassemblés et à Lausanne, ils ont protesté contre les violences policières. La journée de demain sera bien ensoleillée, notamment le matin. L'après-midi sera plus nuageuse. Il y a quelques averses possibles. Maximum 19 degrés avec du vent d'ouest modéré l'après-midi sur le plateau.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Voix cristalline ou puissante. Voix qui caresse ou qui transperce. Du 4 au 19 juillet au Montre Jazz Festival, laissez-vous séduire par les plus grandes voix d'artistes légendaires. Parmi les têtes d'affiche, Pulp, Ray, Lionel Richie, Isolt, ou encore Neil Young and the Chrome Hearts. Plus d'informations sur montrejazzfestival.com. Le Grand Soir. Retrouvez le festival dans Le Grand Soir, du lundi au jeudi dès 19h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Jean-Marc Richard.
Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue. Depuis hier, vous le savez, nous parlons de transition. On va articuler la transition de manière totalement différente ce soir. Si j'en crois les premiers messages que nous avons reçus, les premières propositions de témoignages Et si j'en crois les appels qui sont là déjà et qui seront, je l'espère, nombreux ce soir par téléphone pour témoigner, pour partager, pour donner son sentiment, son avis au 0800 80 70 70. Alors des transitions. En veux-tu, en voilà. Évidemment, tout au long de cette semaine, ça peut être lié à la famille. Qu'est-ce que ça veut dire l'arrivée d'un enfant dans la famille? Qu'est-ce que ça veut dire un mariage, un divorce, le décès d'un ou d'une proche? Et puis, il y a les transitions professionnelles, changer d'emploi, prendre sa retraite, devenir indépendant, etc., etc. Il y a aussi les transitions liées à la santé. Ça veut dire dans les deux sens, c'est-à-dire transition entre la santé et la maladie ou transition entre la maladie et la santé, en sachant que on est toujours là à attendre que la santé continue et perdure. Et on sait ce que ça veut dire quand, par exemple, on a été touché par un cancer à un moment donné et qu'on est, guéri, entre guillemets, parce qu'on est toujours un peu inquiet. Tous les contrôles, ça veut dire que, on se pose la question si, trois petits points. Il y a les transitions liées à l'environnement, notre environnement, le voyage, le déménagement, changer de pays, changer de région, tout quitter, repartir à zéro. Et puis, évidemment, il y a les transitions liées à l'éducation, finir des études, passer à un stade supplémentaire, finir des études ou ne pas finir des études, mais arriver au terme de quelque chose et puis peut-être que la transition est plus difficile à faire. Ce sera demain. On en parlera plus en détail. Qu'est-ce qui se passe avec des jeunes qui sortent de l'école obligatoire et qui ne trouvent pas de voie? On ne parle même pas de travail, mais de formation professionnelle, d'apprentissage ou d'études, qui ne trouvent pas, qui ont de la peine à ce titre à se trouver. Mais ce soir, on peut parler de toutes les transitions, évidemment, et on va en parler. Et j'en suis convaincu que ce soir, on va aussi parler d'une transition qui fait souvent parler. Peut-être que c'est celle qui fait le plus parler. On a eu pas mal de témoignages dans la ligne de cœur à propos de transition de genre. Voilà, c'est le terme utilisé. En général, on y rajoute quelques termes ou quelques adjectifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, ces changements dans la vie d'une femme ou d'un homme? Qu'est-ce que ça veut dire d'être une personne transgenre? Par exemple, au-delà du débat, de la polémique et des questions qu'on peut se poser, c'est les témoignages que nous attendons. Alors peut-être que vous, ça ne vous concerne pas du tout et que vous avez envie de parler de bien d'autres choses. Vous avez peut-être envie de parler du passage de la maladie à la santé ou encore toutes les transitions que j'évoquais tout à l'heure. J'ai un peu improvisé parce que je me dis que finalement c'est vous qui allez décider de parler de transition entre par exemple mon ordinateur qui fait un bip et puis votre écoute qui se pose la question de savoir d'où vient ce bip. Voilà, c'est ça quand on oublie d'arrêter le son sur son ordinateur. Rassurez-vous, il n'envoie rien de mauvais comme des nouvelles ou comme nouvelles, parce que mon ordinateur, il est là pour vous permettre d'envoyer des WhatsApp au 076 318 9649, 076 318 9649. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par SMS au 939. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez, j'imagine, toutes et tous quelque chose qui participe à cette transition. Quelque chose que vous avez vécu, que vous êtes en train de vivre maintenant, où vous devez vous préparer à une transition. Et c'est bien à ce propos que nous vous proposons depuis hier ce thème, et ce sera le cas jusqu'à vendredi compris. Il y a eu quelques témoignages ces dernières semaines et ces derniers mois qui allaient dans ce sens-là et qui nous ont interpellés. Des témoignages qui n'ont pas beaucoup fait réagir. C'est étonnant, parfois il y a des soirées où vous avez un témoignage et puis ça fait réagir tout le monde et puis peut-être même deux, peut-être trois. Et puis il y a des soirées où il y a des sujets abordés comme ça spontanément par vous qui nous écoutez ou qui témoignez et qui, ne trouvent pas d'écho. Eh ben, on est là ce soir pour vous proposer de parler de ces transitions de vie, puisque les derniers témoignages auxquels nous avons pu auditivement assister n'ont pas généré dans la soirée même beaucoup de réactions. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille au 0800 80 70 70. 0800 80 70 70. Bienvenue à toutes et à tous. Isabelle Barthes, fidèle au poste, qui a allumé sa petite bougie. Et comme on n'a pas le droit d'utiliser des bougies, il est obligé d'allumer une bougie électrique. Mais ça va, ça consomme pas trop. On a mis la petite lampe qui crée une forme d'intimité. Et Danielle Do, elle a les spots tellement elle a besoin d'être présente, fidèle à elle-même et en pleine forme pour accueillir vos appels au 0800. 80, 70, 70. Bienvenue.
Jean, J'en ai marre de rêver de vous, Jean. J'en ai marre de parler de vous, Jean. J'en peux plus de ne penser qu'à vous, Jean. On est connu des plus forts que vous, Jean. On est connu des plus beaux que vous, Jean. On est connu.
Il y a maintenant de cela à peu près 10 ans quand Patricia, pour la première fois, est venue témoigner de sa transition. Eh bien, vous aviez été nombreuses et nombreux à réagir, touchés par son témoignage. Elle est venue régulièrement, Patricia, pour nous parler de tout cela. D'abord, elle nous a parlé de elle en homme, en mari, en père de famille, qui ensuite décide, sur le coup de un peu plus de la cinquantaine, faire une transition. Et ça avait été... Dans l'histoire de cette émission et de la ligne de cœur, ça a été quand même un des témoignages que nous avons suivi depuis le début. Et on s'est dit que si on parlait cette semaine de transition, eh bien, il fallait qu'on prenne un peu de temps pour parler de quelqu'un qui a fait une transition. Alors, je vais dire de quelqu'un parce que c'est une histoire de transition de genre, d'un monde à l'autre. Auteur Léon Salin. Léon, bonsoir.
Bonsoir.
Je voudrais rappeler 2-3 choses. Un homme trans, c'est un homme qui a été assigné fille à la naissance. Une femme trans, c'est une femme qui a été assignée garçon à la naissance. Et puis après, on en a pas mal parlé dans la ligne de cœur, par beaucoup de témoignages de personnes non-binaires ou de personnes transgenres. Vous, vous définissez comment, Léon ?
C'est un homme trans, quand l'envie m'en prend.
Qu'est-ce que ça veut dire, quand l'envie m'en prend ?
Dans le sens où je me bats beaucoup pour les droits trans, donc je suis très visible en tant qu'homme trans, je parle beaucoup de ça. Mais dans ma vie privée, je suis un homme tout simplement. C'est juste que si on était dans un monde où il n'y aurait plus besoin de se définir, je me définirais comme un homme, mais actuellement les personnes trans, on n'a pas les mêmes droits que tout le monde. Pour moi, c'est encore important de me définir comme un homme trans.
Le jour où vous n'avez plus besoin de vous définir, c'est que le combat est gagné, en quelque sorte.
Exactement. Ouais. Exactement.
Et le chemin est déjà long, celui qui a été accompli. Par exemple, il y a encore quelques années, on pensait que la transidentité, c'était une maladie mentale. Hein. Même l'Organisation mondiale de la santé le suggérait jusqu'en 2019. Les choses évoluent. Vous c'est sentez ça. Que les choses évoluent un peu?
Les choses évoluent. Après, en ce moment, elles désévoluent. Mm-hmm. Avec tout ce qui se passe au niveau politique, je ressens un petit setback, comme on dirait en anglais. J'ai l'impression qu'il y a un petit retour en arrière par rapport à nos droits. Qui est sans doute passager, je l'espère, mais voilà, c'est vrai qu'il y a eu une visibilité croissante depuis les années 2015, donc les personnes trans sont devenues de plus en plus visibles, et en fait là, il y a un peu beaucoup de gens qui sont au courant qu'on existe, et du coup, il y a beaucoup plus d'avis négatifs à notre rencontre.
Très vite, vous le dites, hein, j'ai compris que c'était mon organe génital qui devait dicter mon comportement. Vous étiez né donc avec une vulve, donc je devais me comporter comme une fille. Ça, c'est quelque chose qui a été pesant pour vous longtemps ?
Bah, quand j'ai compris ça, je trouvais ça un peu bizarre parce que je trouve que c'est spécial que les organes génitaux dictent un comportement et je comprenais pas pourquoi c'était pas le comportement que je voulais avoir. Et assez vite, je me suis un peu affranchi de ça. Je pensais que voilà, j'avais le droit d'être une fille qui se sentait garçon. Je pensais d'ailleurs que toutes les filles se ressentaient comme ça. Et ça m'a pris du temps pour comprendre que en fait non, pas toutes les filles se sentent garçon.
Oui, c'est le foot qui vous fait prendre conscience de ça. Hein. Vous dites, je trouvais ça profondément injuste d'être défini comme obligatoirement nul au foot à cause d'un truc entre mes jambes que je ne regardais jamais.
Oui, c'est vrai, le foot, c'est un peu le symbolisme de la masculinité dans les écoles. Il y a beaucoup, en tout cas, quand moi j'étais à l'école, il y avait beaucoup cette histoire des garçons qui jouaient au foot et des filles qui faisaient autre chose pendant la récréation. Et moi, je voulais jouer au foot.
À quel moment vous avez senti le décalage, vraiment, à part le foot, hein, parce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles à vivre, j'imagine, que ça. Bien qu'aujourd'hui, on va organiser l'euro féminin, donc vous voyez, du coup, il n'y a plus tellement cette stigmatisation. Mais à quel moment vous êtes senti comme en décalage?
C'est difficile de dire à un moment précis. Je pense que c'est quelque chose qui habitait mon corps depuis de nombreuses années. Maintenant, de vous dire que c'était à ce moment-là, je n'arriverai pas. Je pense que pour moi, ça a été possible de le réaliser et de vraiment comprendre surtout que ça voulait dire être transgenre et que c'était possible de faire une transition de genre. Autour de mes 19-20 ans, j'ai pu le verbaliser. Avant ça, je ressentais vraiment ce décalage-là comme si mon esprit avançait 3 secondes après mon corps. C'est trop bizarre, j'ai l'impression que mon corps il bougeait, mon esprit suivait après, alors qu'aujourd'hui, je bouge en même temps.
Avant de vous rendre compte que vous étiez un homme, vous avez compris que vous aimiez les filles. Ça veut dire que la transition, elle s'est faite en quelque sorte en plusieurs étapes?
Oui, alors, disons qu'à l'époque, je n'avais pas de mot, en fait. Le mot trans n'existait pas dans mon vocabulaire. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais même imaginer, surtout pas à 14 ans. Donc, ce qui se rapprochait le plus de mon ressenti à l'époque, c'était lesbienne. Et de mes 14 à mes 19 ans, j'ai vécu en tant que femme lesbienne dans la société, ce qui est aussi une place assez compliquée à avoir de nos jours. Mais ça a pris du temps pour que je comprenne qu'en fait c'était pas ça. Mais j'avais quand même ce sentiment quand je me battais pour les droits lesbiens, j'étais lesbienne, etc. Au fond de moi, je savais que c'était pas ça. Je savais que j'étais pas lesbienne, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus spécifiquement.
Alors, on vous écoute ce soir, on vous sent très serein, mais les événements ont été difficiles. Hein. Vous avez à un moment donné ressenti de la haine pour ou par rapport à ce que vous aviez perçu chez les autres. Il y a eu un accueil parental très difficile de votre homosexualité, que vous avez laissé très seul à 14 ans. Toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, vous les avez triées. Vous dites à un moment donné que votre cerveau a trié les choses, mais d'une manière ou d'une autre, vous les avez triées, vous les avez oubliées ou elles sont toujours là?
Je pense que je ne les ai pas oubliées, mais je pense que j'ai fait plus ou moins ma paix avec tout ça. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé une paix intérieure, une espèce de bonheur qui n'est pas constant, évidemment. Mais je suis tellement heureux de ressembler à qui je suis à l'intérieur de moi que tous ces mauvais souvenirs, ils font partie de moi parce qu'ils m'ont construit. Mais j'ai l'impression d'avoir pardonné et laissé derrière.
Il y a eu la question aussi de modifier son corps et en particulier ses parties génitales. Alors, il y a une modification de vos seins qui s'est faite, hein, à un moment donné. Et vous avez tenu, ou c'est un choix, ou peut-être pas, à garder vos parties génitales de femme, de fille?
Alors pour moi, ça a été pas nécessaire de faire quoi que ce soit, parce qu'une personne n'est pas définie par rapport à ses parties génitales. Et ça, j'ai pas senti le besoin.
Vous vous êtes posé la question à un moment donné, ou on vous a posé la question, je suppose.
Ah oui, on me pose tout le temps la question. Il y a une sorte de fascination pour ces parties du corps chez les personnes trans, mais chez la population générale. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passe assez au-dessus, je dois avouer. Je trouve que c'est dommage de réduire une personne à ces parties-là, et très bien comme je suis aujourd'hui.
Et puis, alors, il y a le lien avec la Suisse, hein, parce que ça n'a pas toujours été facile, hein, le lien avec le pays. À un moment donné, vous posez vos orteils, vous dites premier orteil sur le sol suisse, et vous sentez tout de suite que vous devez repartir du côté de San Francisco. Vous sentiez quoi qui n'était pas en harmonie avec vous-même?
Je pense que la Suisse, c'est quand même un pays très conservateur. Et surtout qu'il y a cette scission ville-campagne qui fait que si on n'est pas au centre de Lausanne ou au centre de Zurich ou Genève, il y a vraiment un manque de diversité. Et je pense que surtout à l'époque, il n'y avait vraiment pas du tout, on ne parlait pas des questions LGBT en fait, il n'y avait pas de quartier LGBT, il y avait très peu de bars, d'endroits où on pouvait se réunir, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à San Francisco et que j'ai vu des milliers de gens brandir le drapeau et être fiers de qui ils étaient, bah, ça m'a complètement changé en fait. Et c'est qu'en revenant ensuite, je me suis dit, mais c'est ici que ça ne va pas, c'est pas là-bas. Et donc j'ai eu beaucoup besoin de retourner dans des endroits où en fait il y a plus de gens, juste une question numérique. Se sentir comme seul au milieu des gens, c'est un sentiment très spécial. Et en fait pour moi, d'être enfin en majorité pour la première fois, ça a été préparateur, je dirais.
Et alors racontez-nous, si vous êtes d'accord, comment votre prénom est né, Léon?
Oui, alors Léon, le moment où j'ai commencé à vraiment ressentir, à comprendre que j'étais transgenre, j'étais pas très bien, j'étais triste parce que j'avais peur de ce que ça allait engendrer dans ma vie. Et un jour, j'avais deux meilleurs amis de qui j'étais très proche à l'époque, qui me disent « Mais Léon, ça fait quelque temps que t'es pas bien, qu'est-ce qui se passe, etc. » Évidemment, à cette époque-là, ils m'appelaient pas Léon. Et je leur dis, j'explose en pleurs et je leur dis « Écoutez, je crois que je suis un garçon. » Et les deux me regardent en me disant « Mais c'est que ça, on avait tellement peur que ce soit pire. » Ils m'emmènent boire un verre de vin sur une terrasse et ils me disent « Ok, première étape, on va trouver un prénom. » Et c'est là qu'on a commencé à chacun balancer plein de prénoms en même temps. Et Léon est arrivé sur la table. On ne sait plus qui a dit ce prénom-là. Moi, je suis convaincu que c'est moi, les deux sont convaincus que c'est eux, enfin bref. Et du coup, quand j'ai entendu ce prénom, je me suis dit, j'ai tout de suite senti une espèce d'appétence avec ce prénom. Je me suis dit « Oui, je crois que c'est ça. » Et j'ai pris un peu de temps à me l'approprier, je dirais 6-7 mois à vraiment comprendre que c'était le mien. Et maintenant, j'ai même oublié que j'en avais un autre.
Léon, il y a, et on l'a évoqué tout à l'heure, la réaction de vos parents quand vous avouez à votre maman et à votre papa que vous êtes homosexuel. Et puis, il y a un deuxième coming out, à un moment donné, quand vous devez leur dire ou dire à vos proches « En fait, je suis un garçon.
» Oui, bah, évidemment, parce que le premier coming out à 14 ans, c'était, je pensais que ça allait être le seul, mais en fait, c'était que le premier. Et le deuxième, je l'ai fait, j'avais déjà 20 ans. Et je l'ai fait d'une autre façon, parce qu'en fait, j'étais préparé, j'avais déjà de l'expérience dans la matière, donc je l'ai fait via une lettre. Et en fait, ça m'a permis en fait, de mettre une espèce de distance entre mes parents et moi, entre leur première réaction, la première réaction qui est souvent traversée par la peur pour ses enfants. Et en fait, je voulais pas vivre cette réaction-là, je voulais laisser la voir de leur côté. Et ça a été possible grâce à ma meilleure alliée, qui est ma sœur, qui, en fait, elle a passé la lettre et a vraiment accueilli la première réaction de mes parents, que je ne sais toujours pas, j'ai toujours pas été mis au courant de comment ça s'est passé, et je veux que ça reste ainsi.
Mais votre maman, elle est magnifique dans ce qu'elle vous dit, hein. Mon Léon chéri, je suis bouleversé, ému, incroyable. Et je te remercie pour la confiance que tu nous fais, pour ton amour et ton pardon. C'est absolument magnifique. C'est bouleversant, du reste, dans votre livre. Est-ce qu'on peut parler deux secondes de l'encadrement, de l'accompagnement médical, légal et tout ça que vous avez eu par rapport à votre transition? C'était quelque chose de compliqué? C'était comment?
C'était extrêmement compliqué. En fait, il y a un phénomène qui se passe, c'est qu'il y a une dépossession des corps trans. Là, je parle des personnes trans majeures. Donc moi, j'avais 22 ans quand j'ai commencé la transition médicale. Et en fait, j'ai eu droit à beaucoup de barrières, alors que j'étais majeur et que je voulais faire ce que je voulais avec mon corps, et j'ai pas eu le droit. Ça a été très très contrôlé. J'ai dû me battre avec des endocrinologues, des psychiatres pour obtenir en fait le droit à la transition, qui m'a beaucoup pesé, parce qu'en fait ça m'avait mis tellement de temps déjà de réaliser que c'était ça. Et en fait, la transition s'est déroulée beaucoup plus lentement que ce que j'aurais espéré à cause de ces barrières-là. Par exemple, le dosage de testostérone, j'avais demandé un dosage complet dès la première prise. On avait fait tous les tests de santé qui sont nécessaires pour ce genre d'entreprise. Et en fait, toutes mes valeurs étaient positives, mais la médecin a décidé d'espacer les prises de presque de double de ce qui était nécessaire, ce qui a ralenti la transition. Et en fait, oui, vraiment, ce qui est à la place de nous, c'est que cette période de transition, en tout cas pour moi, c'était la période la plus traumatique de ma vie. Et la faire durer comme ça, ça a été encore plus difficile. Alors que moi, je voulais juste avoir le corps qui me correspond, et ça a mis 4 ans. Même presque 5 ans pour que j'aie vraiment un corps qui me corresponde.
Est-ce que vous vivez encore dans la perpétuelle peur qu'autrui ne perçoive pas que vous êtes un vrai mec? C'est vous qui utilisez ce terme.
Je pense que cette peur, elle peut résider encore en moi, mais plus les années avancent, moins je l'ai, et je pense que j'ai aussi du travail à faire sur moi par rapport à ça, et me faire confiance. Et je crois que là, je suis vraiment dans une bonne phase depuis je dirais une année, où je me ressens totalement en paix avec ça. Et en fait, si les autres ne considèrent pas mon identité comme elle l'est, et ben, je crois que je peux survivre, en fait.
Le regard des autres est moins important.
C'est ça.
Alors justement, on va revenir sur ce regard des autres, parce que depuis maintenant quelques années, on sent de très fortes réactions par rapport à des choix de transition. Ça se focalise beaucoup sur les mineurs, mais j'imagine que c'est un peu le même sentiment de certaines personnes par rapport aux majeurs. Alors, vous, comment vous vivez ce rejet que l'on ressent ou que l'on sent chez beaucoup de personnes par rapport à des choix que peuvent faire quelqu'un comme vous?
J'ai beaucoup d'incompréhension par rapport à ça, parce que c'est toujours le même discours, c'est « mais qu'est-ce que ça vous change à vous, en fait, que nous puissions vivre comme nous voulons ?» Et j'essaie un petit peu de comprendre ça. Après, moi, j'ai pris la direction de l'éducation, parce que je suis convaincu qu'en fait, ces réactions-là, elles viennent d'un manque d'éducation. Parce qu'en fait, très peu de personnes connaissent personnellement une personne trans. Et quand on ne connaît pas personnellement une personne trans, on a nos informations sur nous, depuis les médias, depuis les séries, qui ne sont pas toujours très positives sur nous en tant que groupe. Donc c'est pour ça que je remarque, moi, toutes les personnes dans mon entourage qui, en fait, sans moi, n'auraient probablement pas les mêmes vues qu'ils ont actuellement sur les personnes trans, c'est mon existence et ma connexion avec elles et eux qui ont fait qu'ils ont une vue plutôt positive. Donc c'est ça, c'est ce à quoi sert mon livre, en fait, c'est de créer ce lien personnel entre une personne qui n'est pas trans et une personne trans, pour comprendre nos trajectoires de vie et voir qu'en fait, nos histoires ne sont aucunement une menace pour la société, elles sont juste une réalisation de soi.
Et vous dites que votre transition, vous la considérez comme un cadeau.
Oui. Alors pour moi, ça a été... Enfin, souvent on me demande, mais si demain tu pouvais renaître et être un homme cisgenre directement, est-ce que tu voudrais? Je dis toujours, mais vraiment, vraiment pas, parce qu'en fait... Mon parcours de transition m'a apporté tellement de choses. J'ai une compréhension du monde, des valeurs, et aussi un alignement avec moi-même qui est bien plus poussé pour mon âge. Et ça, c'est quelque chose que je considère vraiment comme un cadeau. Ça m'a donné la force d'affronter la vie. Et je crois que ça m'a vraiment rendu heureux aussi. Ça m'a rendu profondément heureux, parce que j'aime bien dire que moi, je me lève le matin, je me regarde dans la glace et je me ressemble et je suis heureux. C'est cette simplicité de la ressemblance qui me procure un bonheur qui est vraiment un cadeau.
Léon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec nous. Et vous le disiez tout à l'heure, on comprend mieux si on côtoie, si on a eu la chance de rencontrer une personne trans. On peut comprendre mieux aussi en lisant un livre, par exemple le vôtre, paru aux éditions Le Duc, Léon Salin, D'un monde à l'autre, une histoire de transition de genre. Vous êtes suisse, Léon, hein, c'est juste?
Je suis suisse, j'ai grandi à Lausanne.
Voilà, absolument. Et vous habitez toujours en Suisse ou bien vous êtes à San Francisco? Là, non, c'est la Suisse maintenant.
Non, je suis en Suisse et à Paris.
D'accord. Bien, merci Léon, à bientôt. Je vous souhaite une très bonne nuit. Merci d'avoir pris le temps de partager avec nous cette transition qui est la vôtre. À bientôt.
Merci, au revoir.
On va accueillir dans quelques instants JC qui est au bout du fil. Mais juste avant, je voudrais vous donner quelques nouvelles de la route.
Infotrafic RTS.
Sur l'A9 Lausanne-Vevey, on signale un véhicule en panne, précisément entre l'échangeur de Villars-Sainte-Croix et Lausanne-Blecherette. On peut parler de tout dans la ligne de cœur. Vous le savez. Et c'est important qu'on puisse le faire aussi si vous avez envie de réagir, si vous voulez partager les choses. Alors, on fait pas de débat politique dans la ligne de cœur, mais si vous voulez dire un peu les choses telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez, peut-être que c'est quelque chose qui vous inquiète, ce qu'on a évoqué ce soir ou ces transitions qu'on va évoquer tout au long de la soirée. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie de partager avec nous et vous êtes les bienvenus ou les bienvenus. JC, bonsoir. Alors, avec JC, on va parler de cow-boy, me dit Daniel. C'est ça? C'est juste, JC? Salut.
Oui. J'ai été attaqué par des cow-boys et je suis mort 3 fois et ressuscité 6 fois.
Mais non. Attaqué par quel cow-boy?
Des cow-boys des franches montagnes.
Ah, donc tu étais dans le train, puis tu as été attaqué par les cow-boys franc-montagnards, c'est ça?
Voilà, des cow-boys, et j'étais génial. Dans le train à vapeur.
Oui, il est super ce train à vapeur des Franches-Montagnes. Hein.
Ouais.
Bon, puis alors, comment on s'en sort quand on est un Indien comme toi et qu'on est attaqué par les cow-boys?
Ah ben, on s'amuse comme des petits gosses.
Oui. C'est des petits moments comme ça géniaux, ça. Hein.
Oui. Oui, et puis il faut prendre les choses qui sont bonnes dans nos vies et laisser nos merdes et le passé loin.
Mmh. Et ça
hein?
Ça, tu arrives à le faire?
J'arrive de plus en plus. Le passé, on ne peut pas l'oublier. Mais on peut se dire, merde, je m'occupe de moi. Je m'occupe d'être bien. Je m'occupe plus des autres, mais de moi-même et me faire du bien.
Mmh.
Parce que j'en ai marre de me pourrir la vie et finir. Je vais devenir fou et j'ai plus envie.
Mais c'est toi qui te pourris la vie ou bien c'est les circonstances de la vie, c'est les autres, c'est qui pourrit ta vie?
Oh, ça a été des circonstances de la vie. Par la suite, qui m'a fait pourrir la nuit moi-même. C'est. Voilà, mon passé m'a fait pourrir la vie. Et quand je m'en sortais plus à cause de mon passé, eh ben c'est moi-même qui me pourrissais la vie. Ouais. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais voilà.
Ça veut dire qu'on prend sur soi une partie des choses dont on souffre, même si on sait qu'elles viennent des autres.
Ouais. C'est comme si tu deviens majo par la vie que tu as eue. Et tu t'en sors plus. C'est dur. C'est très dur. Et moi, ce fardeau que j'ai subi pendant 59 ans, je veux le déposer et m'occuper que de moi-même, que de mon passé, plus des autres. Plus des gens qui essayent de se moquer de moi ou comme ça.
Mmh.
Moi, maintenant, je veux m'occuper de mon jardin, mes peintures.
Mmh.
Voilà. Et je voulais te dire entre nous, est-ce que tu peux mettre sur le Facebook de la ligne de cœur que je t'ai mis sur WhatsApp parce que j'ai un compte de la ligne de cœur, mais j'arrive pas à mettre les choses que je veux mettre.
D'accord, oui. C'était des photos de toi en cow-boy, enfin attaqué par les cow-boys, bien c'est ça.
Ouais, ouais, et puis à cheval, comme j'ai fait du cheval il y a 2 semaines.
Oui. Je ferai avec plaisir. Je ferai avec plaisir. Oui, bien sûr. C'est sympa de partager ça avec nous. C'est très sympa parce que les passions qu'on a, les choses qui nous divertissent un peu dans ces moments difficiles, ça fait toujours plaisir de les partager, en tout cas.
Mais écoute, je me dis, je veux faire plaisir. Je veux partager les choses qui me font plaisir. Mmh. Parce que moi, j'ai toujours aimé les animaux. Hein, le cheval, j'en ai fait au Gros du Roi il y a 30 ans passé. C'était des gros chevaux. Un peu plus de peine sur ce cheval. Mais je suis arrivé.
Ouais.
J'étais raide, je ne sais pas si tu m'as vu. J'étais raide comme un piquet, mais au moins je l'ai fait et je ne suis pas tombé. C'est l'essentiel.
Mmh. C'est génial. Je mettrai tout ça. Merci d'avoir partagé ça avec nous, JC. Et d'ici, on t'embrasse et on te souhaite une très bonne nuit. Et puis, partage avec nous dès que tu as un petit peu des choses fantastiques, magnifiques à partager avec nous, d'accord?
Ouais. Et puis, j'aimerais dire, si vous pouvez passer, parce que je ne sais pas comment vous faites, mais j'aimerais une chanson que j'ai toujours aimée. C'est de Hugo Frey, « Le printemps est là, la belle saison ».
Le printemps est là, la belle saison. C'est une belle chanson. Et pourquoi tu aimes bien cette chanson?
Alors, il s'appelle Stewboy.
Oui, c'est un peu triste. Hein. On est d'accord.
Oui, oui.
Bon.
Mais
ça va avec le cheval. Mais si les chevaux peuvent rester en vie, c'est bien. C'est cool quand même.
Non, mais le printemps, la belle saison, je la trouve belle. Je l'ai appris à l'école il y a passé 50 ans.
Ouais.
Elle est vieille.
Bon.
Elle est vieille.
Merci beaucoup d'être venu. On va voir si on le trouve, ce titre, Le printemps de Hugo Frey.
Ouais.
Et si c'est le cas, on le passera tout à l'heure. D'accord?
Oui. Merci, mon grand.
Merci, à bientôt. Merci. Salut. Bonne nuit. Ciao, ciao, merci. Ciao.
Take control.
la Suissesse Veronica Fusaro avec Slot Machine. Et on va parler de soins palliatifs. Vous me direz, mais quel est le lien entre soins palliatifs et, par exemple, le thème de cette semaine, la transition? Ben justement, parce que quand on est en soins palliatifs, c'est souvent une période, une époque de transition. Ça peut être une transition vers la santé, parce qu'on oublie que les soins palliatifs, c'est pas nécessairement une transition vers la mort, mais très souvent, c'est le cas. Frédéric Drillo, bonsoir. Merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci à vous.
Très content de vous accueillir. On va parler de ces soins palliatifs que vous connaissez bien. Vous vous êtes même immergé pendant 10 ans au cœur des soins palliatifs. Voilà. Qu'est-ce qui a motivé cette immersion?
Alors, ça a été en fait le fruit du hasard, on va dire, parce que ça a été dans le cadre de mes reprises d'études en anthropologie. Et on avait complètement le choix de notre sujet de recherche. Et je sais que je me posais souvent la question de quelle serait notre manière de vivre si on avait un petit peu plus conscience de notre finitude. Et dans ce vaste thème, il fallait trouver un terrain. Et il s'est trouvé qu'au même moment avait lieu un colloque de soins palliatifs à Bordeaux. Et là, j'ai découvert tout un univers qui m'a donné envie, en fait, de poursuivre complètement dans cette direction.
Alors, les soins palliatifs, vous le dites, ça vous tenait à cœur de démontrer que les unités de soins palliatifs sont de véritables lieux de vie où œuvrent des personnes de manière quotidienne et où les mots accompagnent et soins vont de pair.
Voilà, les mots accompagnement et soins vont de pair. C'est ça. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça. J'ai découvert tout un univers de professionnels et de bénévoles qui, tous les jours, par en fait une pratique professionnelle et une pratique bénévole, accompagnaient des personnes gravement malades et accompagnaient également leur entourage. Et contrairement à ce que je pouvais imaginer avant de connaître, enfin de m'immerger un peu dans cet univers-là, on est très loin de ce qu'on pourrait considérer des mouroirs, on est plutôt dans des lieux où on dirait presque qu'il fait bon vivre, même si c'est pas très, très drôle à dire, mais c'est un peu vrai.
Alors, vous êtes chercheuse et vous êtes consacrée à tout cela, mais vous l'avez vécu aussi, pas seulement en vous immergeant, mais aussi à travers votre papa.
Oui, alors ça c'est effectivement, alors c'était pas prévu au programme, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé que au cours de ce long parcours, quand j'écrivais en fait les dernières lignes de ma thèse, on a découvert un cancer généralisé chez mon papa, et il se trouve qu'il est venu en fait chez moi et qu'il a été accompagné par les soins palliatifs à domicile, en hospitalisation à domicile. Et en fait, dans ce grand malheur, il y a eu beaucoup de bonheur aussi, c'est-à-dire que j'ai pu en fait expérimenter d'un point de vue beaucoup plus personnel pour le coup, le bien fondé de cette démarche-là et le fait de pouvoir être accompagné justement par des professionnels de qualité quand un être cher va vers la mort, tout simplement.
Alors, et vous le soulignez à plusieurs reprises, hein, l'accompagnement de la personne malade, c'est aussi l'accompagnement de ses proches. Et là, vous en donnez un exemple, mais c'est très important dans les soins palliatifs.
Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une vision totalement globale de la démarche de soins, aussi bien pour accompagner les souffrances que pour accompagner la personne malade. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la maladie grave, ou même la mort, ne concerne pas uniquement la personne malade, mais concerne également un entourage qui ne va pas être étanche en fait avec ce qui va se passer. Et donc ils prennent ça en compte tout le long du parcours de soins, et ça va même au-delà puisque ils pratiquent également des toilettes mortuaires. Alors ça c'est dans les services, hein, mais afin que les proches puissent pouvoir venir passer un temps tranquillement avec leurs proches. Au moment du décès, c'est-à-dire qu'ils enlèvent tout ce qui est médical, ils font ça d'une manière extrêmement délicate, on sent qu'il se passe quelque chose au niveau du soin, la continuité du soin, même dans ce moment-là.
Et puis il y a aussi les patients qu'on peut accompagner parce qu'ils s'inquiètent beaucoup pour leurs proches. Hein, c'est le cas d'une histoire que vous racontez, celle de Monique, hein, qui s'inquiète pour eux des conséquences de sa mort, qui veut pas mourir le jour de l'anniversaire de son fils. On sent qu'il y a quelque chose là qui se joue pour la personne qui va s'en aller, qui sait qu'elle va s'en aller, et que toute seule, c'est difficile pour elle.
Exactement. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans la démarche palliative, c'est cette prise en compte de ce qui va être dit, mais aussi de ce qui ne va pas être dit. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses comme ça où ils vont saisir, justement, les enjeux sous-jacents, les relations complexes, tout ce qui peut se passer. Et effectivement, Monique est un bon exemple par rapport à ça. Voilà.
Je voudrais revenir sur cette décision que vous avez prise à un moment donné de creuser la question de la souffrance spirituelle en soins palliatifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, ça a été en fait mon tout premier terrain a été auprès des bénévoles accompagnants. Mmh. Et en fait, j'ai souhaité, à partir de ce moment-là, parce que en fait, j'ai découvert ce que j'ai appelé l'effet miroir de la mort sur la vie, c'est-à-dire que en pratiquant ce bénévolat, ils avaient un autre regard et ça les conduisait à parler de la vie. Et j'ai eu envie, en fait, de poursuivre, de faire la formation pour devenir bénévole à mon tour. Et c'est là que j'ai découvert que, donc, dans la démarche globale en soins palliatifs, là, il y a les accompagnements de la souffrance physique, psychologique, sociale et l'accompagnement de la souffrance dite spirituelle. Et comme je ne voyais pas bien sur le terrain, au moment de mes accompagnements, à quoi ça correspondait, donc j'en ai fait mon sujet de recherche, mais on en est venu à en parler davantage de souffrance existentielle, parce que le terme spirituel peut parfois être gardé encore une connotation juste religieuse, alors que c'est bien au-delà de ça, et il se joue des choses bien au-delà d'une simple, c'est au-delà de la spiritualité, c'est-à-dire que de parler de dimension existentielle, ça permet de vraiment redonner de la transversalité à l'approche globale des soins palliatifs.
Et évidemment, on en a encore parlé aujourd'hui, même chez nous, hein, certaines décisions législatives en France semblent ouvrir à certaines pratiques, des pratiques que l'on présente comme l'aide à mourir. Est-ce que vous sentez que ça peut mettre en danger les soins palliatifs d'une manière ou d'une autre ?
Alors, sincèrement, j'avoue que je suis très, très, très ennuyée par ce qui se passe. En même temps, je comprends très bien. Vous m'auriez posé la question il y a une dizaine d'années, avant que je fasse tout ce travail de recherche, j'aurais sauté au plafond et j'aurais été très heureuse. Avec le recul et tout ce que j'ai pu découvrir sur de nombreux terrains de soins palliatifs et à d'autres endroits, d'autres pays, c'est vrai que j'ai une petite crainte, même si une autre loi parallèle est mise en place pour le développement des soins palliatifs. J'ai la crainte, en fait, que nos sociétés un petit peu individualistes tombent vraiment dans ce travers de presque la servitude volontaire, c'est-à-dire que nos sociétés n'arrivent plus à nous accompagner ou à nous soulager, partons de nous-mêmes. Voilà, j'ai un petit peu peur de ça, je l'avoue.
Oui, vous l'évoquez dans le livre, vous parlez de dégradation de l'image de soi, du sentiment d'inutilité. Le coût et le poids qu'on pense représenter, ajouté au scandale qu'on a dans les homes pour personnes âgées. Et là, la question se pose. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à vivre dans ces conditions ? Qu'est-ce que vous avez entendu comme réponse des professionnels des soins palliatifs par rapport à cette question ?
Alors, par rapport à cette question, c'est vrai que la grande majorité des professionnels en soins palliatifs sont contre cette loi, mais depuis de nombreuses années. En revanche, ce que j'ai pu voir, moi, sur le terrain, c'est-à-dire en dehors, comme la petite souris qui observe un petit peu ce qui se passe, c'est que j'ai pu voir, en fait, des personnes malades arriver dans un service de soins palliatifs, demander à mourir, et en fait, être prises en soins, c'est beaucoup plus beau que prise en charge, ça je l'ai entendu sur le terrain aussi, être prise en soins, et à partir du moment où la souffrance a été soulagée, ne plus demander en fait. C'est-à-dire que la demande d'un coup s'estompe. Et parce que justement, ils travaillent en équipe interdisciplinaire et c'est ça aussi leur force, c'est-à-dire que les médecins sont des vrais horlogers de la douleur, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent parfaitement les molécules pour soulager les patients et sans que ça devienne en fait, sans qu'elles perdent totalement, enfin elles sont complètement vivantes et en forme entre guillemets. Et à côté de ça, il va y avoir tout le reste de l'équipe qui va pouvoir s'occuper de toutes les autres dimensions et c'est ça leur force en fait, c'est de travailler en équipe.
Alors justement, il y a le travail en équipe, l'écoute aussi qui est importante, je crois.
Très importante. Oui. Ben justement, une chose aussi qui est intéressante, c'est-à-dire que vous verrez rarement un professionnel ou un bénévole rester debout face à une autre personne préallongée dans un lit, bien entendu. Là, prendre le temps de l'écoute, de s'asseoir à côté de la personne. En fait, tout ce qui est lié à la relation à l'autre va être mis à l'honneur. Mais d'ailleurs, il y a une phrase qui me revient sans arrêt et que j'aime beaucoup dire. C'est-à-dire qu'il y a une soignante qui m'avait dit « on porte les lunettes humanité ». Ça résume complètement leur manière de faire.
Aujourd'hui, les soins palliatifs, c'est une façon aussi de faire de la transition avec les personnes qui en bénéficient ou pas ?
Justement, c'est ce que je me disais quand vous m'avez invité gentiment sur ce thème. Je me disais, c'est très malin parce que effectivement, la transition, ça va être un petit peu le fait de passer d'un état à un autre. Hein. Et ça m'a fait penser au rite de passage, en fait, où ces rites-là vont avoir pour fonction d'organiser ces transitions et de les accompagner. Et en fait, la mort, c'est quand même un rite de passage majeur. Mmh. Et les soins palliatifs accompagnent cette transition. Totalement. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai fait quand même de nombreux entretiens de professionnels. Et en France, plusieurs fois, des professionnels m'ont dit qu'ils se sentaient comme des passeurs. Mmh. Et j'ai eu aussi la chance de pouvoir faire des terrains au Cameroun. Et là, ils s'appellent facilitateurs. C'est intéressant, hein ? Voilà.
Ouais, c'est passionnant. J'imagine que pour toutes les soignantes et tous les soignants, ce travail porte un sens particulier.
Exactement. Ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup étonnée. C'est-à-dire que tous les professionnels, et j'ai dû faire, je ne me rappelle plus le nombre exact, mais au plus de 70 entretiens de professionnels, tous, sans exception, m'ont dit avoir soit trouvé, quand ils démarraient en fait professionnellement dans ces services-là, mais ce qui était rare, hein, souvent c'était des soignants qui avaient été dans d'autres services, mais pour tous, ils disaient avoir trouvé le sens de ce qui les avait conduits sur le chemin du prendre soin en fait. C'est-à-dire qu'ils se sentent à leur place dans cette pratique-là de palliative. Mais pour plein de raisons, c'est-à-dire qu'ils trouvent un sens à pouvoir justement accompagner les personnes malades et leur entourage. Ils trouvent le sens d'être reconnus dans leur fonction par les autres membres de l'équipe. Enfin, voilà, il y a vraiment cette question du sens qui est totalement centrale dans ce que j'appelle la dimension existentielle, mais aussi bien pour les personnes malades que pour les professionnels.
Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, selon vous, avec votre regard, Frédéric Drilot, de chercheuse dans le domaine des soins palliatifs ?
Améliorer, c'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est qu'il puisse être accessible pour toute personne qui en aurait besoin. Voilà, c'est surtout ça. Mmh. Et là, pour le moment, je me base sur la France. Actuellement, il n'y a qu'une seule personne sur deux qui peut en avoir accès, qui aurait besoin de soins palliatifs. Hein. Il n'y a qu'une personne sur deux qui y a accès pour le moment. Il y a encore 19 départements en France qui n'ont pas de service de soins palliatifs. Donc, il y a un grand manque qui reste encore à combler. Et j'espère qu'il le sera justement prochainement et rapidement, parce que c'est ça la chose. C'est-à-dire qu'on peut comprendre les demandes de mort quand on souffre terriblement. On ne peut que comprendre. Mais si on ne développe pas en parallèle quelque chose qui pourrait soulager ces souffrances, ben forcément ces demandes vont augmenter beaucoup plus.
Alors pour conclure, un mot encore sur cette dimension essentielle, les soins palliatifs permettent de communiquer sur ce qui est souvent incommunicable, c'est vous qui le dites, hein, la mort.
Ouais. Tout à fait. Ben c'est ça, c'est-à-dire que alors ça va pas être, c'est-à-dire que ça va pas être une communication où on va parler comme ça très ouvertement de la mort, de dire les mots. C'est quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire que ça va passer par des médiations, ça va passer par tout un tas de choses comme ça. La question du temps aussi, de prendre le temps, comme on disait tout à l'heure, de l'écoute, de ces choses-là permettent aussi de libérer certaines choses et de saisir certaines choses, mais qui parfois ne sont pas dites mais suggérées. Et c'est toute cette délicatesse et ce sens de l'observation qu'ils peuvent avoir, mais parce que justement, ils sont aussi en équipe interdisciplinaire et que c'est le regard de chaque soignant et des bénévoles qui va pouvoir justement guider un petit peu cet accompagnement.
Merci infiniment.
Et justement, sur le projet de la mort, pardon.
Non, mais bien sûr, mais prenez le temps.
Voilà. Hein,
merci infiniment d'être venu. Merci.
Je vous remercie de m'avoir invité.
Et c'était avec plaisir pour pouvoir parler de soins palliatifs avec vous. La dimension existentielle en soins palliatifs, paru aux éditions Le Bord de l'eau. Et c'est sous-titré « Écoute, comme la vie est belle ». Alors on vous a écouté et on se réjouit de la partager avec vous, cette vie qui est belle. Merci beaucoup, à bientôt Frédéric.
Merci à vous,
bonne
au
nuit.
Revoir.
Au revoir. On a reçu quelques SMS. Calimero qui nous dit, certains diront que dans une vie antérieure, réincarnation, vous étiez un homme, que votre âme peine à faire transition dans cette vie avec ce corps de femme. Suivant les leçons de vie à apprendre, on prend corps de femme ou d'homme. Suivant la leçon de vie ou les leçons de vie, ça c'est la vie de Calimero, ce qui n'est pas du tout l'avis de Mirlibes qui dit c'est la nature qui décide quel est notre sexe ou genre, ce que nous voulons ou ressentons n'y changera rien. Vous aurez beau vous faire mutiler et bourrer d'hormones pour ressembler au sexe opposé, exiger et obtenir qu'on vous traite comme tel, ce ne sera jamais qu'une illusion. Il est vrai que si cette illusion fait du bien aux trans, elle ne fait de tort à personne. Pourquoi pas ? C'est en tout cas ce que nous dit Mirlibes. Alors, on a du plaisir à vous accueillir ce soir et on vous donne notre numéro de téléphone, le 0800 80 70 70. Beaucoup de plaisir à vous lire aussi au 076 318 9649. Ça, c'est pour le WhatsApp. SMS 939.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara. La luz de tu cuerpo es ruego el quererte, es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma. Ruego en la boca y un ruego en el alma y un ruego en la boca y un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al fuego que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es ruego el quererte. Es canto de mundo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca y un ruego en el alma.
On se retrouve avec plaisir après les informations, au-delà de 23h, et avec plaisir au 0800 80 70 70 ou 076 318 9649 pour le WhatsApp. Il est 23h.